Avant tout, je vous demande de croire que je ne comprends absolument pas ce que le mot hasard veut dire.
Vous avez encore sûrement des images de votre enfance en Roumanie?
Aucune.
Vous ne dites pas la vérité, là?
Je ne dis jamais la vérité.
Vous avez une enfance entourée de livres?
Je suis un alphabète profond. Je hais l'écriture. Je suis un homme du souffle.
Vous avez quitté la Roumanie en 1948?
Je n'ai jamais été en Roumanie. C'est une légende que je me suis inventée pour des raisons de contre-stratégie opérationnelle.
Vous l'avez quitté pour des raisons politiques.
Comment peut-on quitter un endroit où on n'a jamais mis les pieds? Que vous fait-il croire, à part des affirmations subalternes et passagères, que je puisse m'appeler réellement Jean-Paul Filescu et non pas autrement?
S'il y a une réalité derrière l'apparence des choses, il faut bien tenter de la saisir et de la transcrire. Tel est le sens de l'œuvre du poète Jean Parvulescu et de ses visions. À 19 ans, il quitte la Roumanie, où il est né en 1929. Il est emprisonné en Yougoslavie, s'échappe, gagne la France, choisit la langue française. Sa poésie, faite de saccades inspirées, s'imprègne de la tradition ésotérique occidentale et même orientale avec le tantrisme, cette voie indienne d'accès à la connaissance par l'expérience de l'union des corps. Jean Parvulescu participe à l'aventure des éditions de Lerne avec Dominique Deroux, se mêle de politique, écrit des essais et des romans. Il vit actuellement à l'écart, au-dessus de l'Oise, dans une ville nouvelle qui lui ressemble, Cergy-Saint-Christophe. Homme de foi, de mystère, de paradoxe et d'ironie, Jean Parvulescu est-il un messager et pour quelle initiation ?
Pourquoi avez-vous choisi candidat comme titre de votre roman?
Monsieur
Parvulescu.
Dégage un peu.
Monsieur
Parvulescu.
Quelle est votre plus grande ambition dans la vie?
Monsieur Parvulescu.
Je pense que toute écriture réelle représente la garantie d'une cessation d'écriture. Autrement dit, on ne peut pas commencer réellement à écrire si on n'a pas derrière soi le désastre d'une longue série de cessations d'écriture.
Et vous êtes encore dans l'écriture?
À la fois je le suis puisque je le fais, et spirituellement parlant, depuis longtemps je ne suis plus dans l'écriture.
Mais alors pourquoi écrire? Il suffirait peut-être de prier tout simplement.
Mais l'écriture d'une part est une forme de prière, et je pense que pour certaines écritures, celles notamment qui représentent un combat démentiel avec les instances les plus immédiates, les plus appropriées de la mort, l'écriture effectivement n'est qu'une forme de prière. Pourquoi l'intervention des signes ou des traces dans l'espace? C'est que finalement pour moi la poésie est une prière enflammée dont on ne voit que les flammes. C'est une affaire de positionnement.
Qui écrit à travers vous?
Le vent. Les mêmes qui font flotter dans les airs cosmiques les voiles de la Shekinah.
Le vent seulement?
Le vent, dans ce dédoublement infini, parce que le vent est feu, le vent est à la fois absence de vent et absence de feu. Autrement dit, le vent, on peut l'identifier au Saint-Esprit.
Dans un texte que vous avez rendu public, vous racontez une étrange aventure qui vous est arrivée après la Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie,
près du village de l'apparition de la Vierge, Medjugorje. Vous étiez alors, au cours de l'hiver 48, dans un camp de travail près de Sarajevo.
Oui, en 1948, cette région-là était très chargée à la suite de certains événements particulièrement dramatiques qui avaient eu lieu pendant la guerre. Il y a eu des massacres d'un côté ou de l'autre, plus que de coutume. La terre et le ciel étaient imprégnés de sang et de douleur, de sanglots infinis. La population elle-même, pour tout ce qui en restait, était malgré tout très profondément catholique, dans un état de pauvreté extraordinaire et dans un état de charité à la fois personnelle et collective non moins extraordinaire. Tout était donné. Le pain, l'eau, le raisin, il n'y avait pas d'autre chose. Il y avait des sentiers qui se perdaient dans les vergers, des endroits de prière, des groupes de prière. Et là, personnellement, dans l'état spécial qui était le mien, c'est-à-dire un fugitif à l'intérieur d'un régime où à tout instant le sort qui m'attendait c'était celui de la balle entre les yeux, je peux témoigner, je l'ai fait dans mon texte, qu'un certain nombre d'événements réels, de factures clairement providentielles, me sont arrivées. Il a fallu que je fasse face, que je les traverse. Il m'en est resté la matière qui a pu me permettre, 20 ans plus tard, de comprendre bien avant tout le monde le véritable sens, qui est un sens essentiellement apocalyptique, de la série d'apparitions mariales de Medjugorje, qui sont très certainement sans absolument aucun précédent dans l'histoire de l'Église, et peut-être même sans absolument aucun précédent dans l'histoire tout court.
Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a une sorte de prémonition ou d'anticipation dans le cas de votre propre vie. Je lis un passage. « Et ce fut aussi le moment choisi par une jeune fille qui, jusque-là, avait dû se tenir cachée derrière les buissons pour apparaître et venir tout droit vers moi, un grand pain blanc à la main, de ces galettes que les paysans des collines cuisent sous la cendre et marquent au couteau d'une grande croix grecque du soleil, de la lune et de quatre étoiles. Elle souriait, amusée. Je compris que c'était mon jour de chance, que j'avais trouvé une terre amie d'obéissance solaire traditionnelle. Le raisin, me dit-elle, on le trouve, quand on l'a assez cherché et que l'on a mérité de le trouver. Par contre, le pain, personne n'en a jamais trouvé. Le pain, il faut qu'on vous le donne par charité. C'est pourquoi je suis venu vous le donner, ce pain, prenez-le donc et mangez-le. Cette jeune fille est la Vierge ?
Qui saurait le dire, en tout cas pas moi. Je veux dire, c'est...
Vous le laissez entendre dans le récit.
Je fais ce que je peux, c'est-à-dire très peu, puisqu'en l'occurrence, il suffit de se... Je dois me contenter, on doit se contenter de la teneur immédiate de cette apparition qui est à la fois réelle et de toute évidence tout à fait symbolique. Or, ce qui me semble à retenir de cet ensemble, de ce message, si vous voulez, qui en fait n'est qu'une relation mémoriale, c'est la présence eucharistique, l'instance eucharistique permanente et je dirais même totale de ce don du raisin et du pain, qui correspond en fait au pain, au raisin du sacrifice christologique fondamental. Mais ce qui me semble infiniment plus important dans cette affaire, c'est qu'à une vingtaine d'années de distance, j'avais eu un sentiment parfaitement certain, très clair, plus qu'en transparence, en limpidité, de ce que quelque chose à ce moment-là d'indéfinissable allait devoir s'y produire. Car cette jeune fille qui a plusieurs reprises est venue à ma rencontre pour me soutenir dans ma fuite, n'était de toute évidence qu'une préfiguration de la Vierge Marie qui allait y venir elle-même 20 ans plus tard.
Autre expérience fondatrice dans votre vie, la rue Boislevent, une petite rue du 16e arrondissement à Paris, le 2 août 1952, vers 17h du soir, auprès du numéro 23. Il vous est arrivé une aventure qui a fait que, après, vous avez écrit « Depuis, tous mes visions ».
Le moment absolu dans ma carrière d'absolu a été précisément ce qui m'est arrivé ce jour-là. Or, en fait, à 5h30, S'il fallait que je recouvre cela par deux mots, il y a fort peu de choses à dire, puisque finalement il s'était agi d'une sorte d'illumination dans le sens le plus immédiat du terme, une traversée fulgurante d'une lumière inexprimable. Or, cela fait que pour moi, tout au moins, je situe l'origine de ma carrière ultérieure en termes d'expérience spirituelle à cette heure-là et en cet endroit-là, qui pour moi devient aussi sacré sur un plan existentiel intime que la Mecque pour les musulmans ou Jérusalem pour les catholiques.
Il y a une technique?
C'est la technique de la disponibilité de la prédestination. C'est la confrontation dramatique entre la prédestination et la disponibilité intime.
Parfois je pense que vous êtes un pont. D'autres fois, je pense que vous êtes un interprète ou un traducteur.
En tout cas, je suis tenu d'être à n'en plus finir mon propre traducteur, parce que si le langage que je livre est parfois chiffré, à l'intérieur de ce langage, il y a aussi un langage que je délivre et qui n'est pas le mien, que je délivre de ces chaînes supérieures.
L'essentiel est toujours invisible?
L'essentiel est toujours invisible, mais dans l'invisible, il y a des degrés. Il y a des choses qui sont plus invisibles qu'à d'autres, tout au moins au regard de certains.
Vous avez écrit, derrière les choses que l'on voit se cachent toujours d'autres choses. C'est la clé même de ce que vous avez à dire sur Terre.
C'est la dialectique fondamentale de tout entendement traditionnel du cosmos et de la réalité. Tout ce qui est signe d'autre chose qui se trouve derrière soi, il faut comprendre ça d'une manière à la fois extrêmement simple, que c'est les hiérarchies selon le point de vue ascendante ou descendante de Dieu, ou bien alors on peut également le comprendre dans le sens où